Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le débrief du Grand Prix de Monaco. On a vécu un week-end incroyable en principauté. Des essais à la course, la séance de qualification a été folle. Le Grand Prix en tant que tel, il y a eu un scénario. J'ai dû le regarder 4 fois pour comprendre tout ce qui s'était bien passé dans cette course. Tellement il y a eu des rebondissements et une situation qui s'est inversée. On va vous débriefer tout ça avec les ingénieurs. Je vous rappelle que si vous découvrez ce podcast, on est présent sur Instagram, Paddock RMC. Et surtout, il faut vous abonner. C'est ça la clé. Abonnez-vous pour avoir toutes les notifications qui tombent. Il y a plein de contenu qui tombe autour du paddock toute la semaine. Tiens, si vous voulez découvrir les coulisses du Grand Prix de Monaco, hier, on a enregistré un petit podcast hors série avec notre producteur préféré, Kylian Verhove. On parle de Kim Kardashian, on parle de tout le côté de Jet Set. On l'a enregistré depuis le paddock de Monaco sur toutes les coulisses de ce Grand Prix. Allez-y, ça permet aussi de découvrir Monaco sous un autre aspect que purement le sportif. Et c'est quand même super intéressant. Les ingénieurs qui sont avec nous, notre team principale, Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Eh bien, salut mon Nico et bonjour à tous.
T'as vu, je suis vite sur le sommaire parce que vu qu'on a à peu près 2 heures de débrief qui nous attendent là avec tout ce qui s'est passé, comme ça on
c'est
en quitte.
Hein.
Louis Gerbier et Seberson sont tes ingénieurs. Salut les amis.
Salut.
Salut Young Boys.
Salut Jean-Luc.
J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez préparé les bouteilles d'eau. Il y a beaucoup de choses à dire. On se penche tout de suite dans le débrief. Ah bah alors oui, là vraiment t'es très très chaud. J'espère que t'as prévu 3 litres de flotte alors.
On est prêts.
C'est parti pour ce débrief du Grand Prix de Monaco. Le résultat de la course, tout de suite, la 5e victoire consécutive pour Kimi Antonelli avec sa Mercedes qui a réussi un week-end incroyable. On va bien sûr revenir sur la perf du jeune Italien. Il devance une nouvelle fois Lewis Hamilton qui, après sa 2e place à Montréal, est de nouveau monté sur la 2e position avec sa Ferrari. Isaac Hadjar complète le podium, premier podium pour le Français avec ses nouvelles couleurs Red Bull. Oscar Piastri termine 4e, Liam Lawson 5e. Arvid Lindblad 6e, Pierre Gasly 7e avec un scénario dramatique qui nous a fendu le cœur. Je ne sais pas trop comment utiliser le qualificatif, bien évidemment on va en reparler. Alex Albon 8e, Esteban Ocon est 9e et Fernando Alonso a marqué le point de la 10e place. Vous imaginez bien que s'il y a une Aston Martin à la 10e place et qu'il s'est passé plein de choses, plein de péripéties, les abandons de Sainz, de Leclerc, de Stroll, de Norris, de Berman, de Bottas, Verstappen qui a eu un problème de moteur et qui n'a même pas pu prendre le départ. Voilà pour les abandons de ce Grand Prix de Monaco. Le classement des pilotes, parce que ça a énormément bougé, bien évidemment, Kimi Antonelli est en train de s'envoler, 156 points. Son dauphin, c'est Lewis Hamilton, désormais avec seulement 90 points. Il y a 66 points d'avance pour Kimi Antonelli. George Russell a perdu gros, il est 3e, Charles Leclerc 4e. Isaac Hadjar, grâce à son podium, a recollé sur Max Verstappen, il est 8e du classement. Bon, il y a quand même 14 points d'écart entre Verstappen et Hadjar, mais au moins il recolle Isaac Hadjar au classement des constructeurs. Mercedes à 244 points, pardon. Ferrari 165, McLaren 118. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Racing Bulls qui est en train de remonter notamment sur la 5e place d'Alpine, 2 petits points d'écart. Et Aston Martin du coup qui a marqué son premier point et qui devance Cadillac. Voilà un peu pour tous les enjeux. Les amis, avant de revenir sur le Grand Prix, Jean-Luc, je voudrais qu'on commence ce podcast par la séance de qualification parce que ça a été un des grands moments de ce Grand Prix de Monaco. On le sait, en principauté, on attend le samedi. C'est la séance de qualif de la saison. Tout le monde attend ça. On n'a pas été déçus. Il y a eu notamment une Q3 incroyablement relevée où il s'est passé plein de trucs.
Eh ben, excellent choix, mon Nico, mais j'en doutais pas un instant. Je vais essayer de parler doucement parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce débrief du Grand Prix de Monaco que sinon on va aller à la vitesse des mitraillettes. Alors effectivement, excellent choix parce que les qualifs à Monaco, c'est quand même toujours un événement absolument incroyable. C'est là qu'on voit à la fois la maîtrise extraordinaire des pilotes où on pilote plus au centimètre, on pilote au millimètre, hein, vraiment. Tu as vu de quelle manière les roues viennent lécher les rails, c'est vraiment le mot qui convient. On le voit avec les caméras loupes maintenant, où il y a je ne sais plus combien de milliers d'images secondes, c'est fantastique. Donc c'est vraiment pour moi la quintessence du pilotage, un tour de qualif à Monaco, et je vais évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer Ayrton Senna. Donc là, bon, on a eu de surcroît une qualif qui n'a pas été altérée par ce règlement de merde, ça y est, ça commence, parce que effectivement, la FIA avait décidé, ce qui est d'ailleurs un désaveu total de leur propre règlement, de ne plus permettre aux pilotes de recharger autant en électricité. Je vous passe les détails, ça n'a pas d'intérêt. Ça veut dire que les pilotes avaient le droit d'attaquer à fond en qualif. C'est quasiment la première fois depuis le début de la saison, donc c'est une très bonne nouvelle. Et on a assisté à ce spectacle fabuleux avec la Kimi Antonelli, qui là, pour moi, avait déjà posé les pierres, évidemment, de sa victoire. On le dit à chaque fois, même si les stats font que sur les 22 derniers Grands Prix disputés dans les rues de Monaco, 15 ont été remportés depuis la pole, mais ça veut donc dire qu'il y en a eu d'autres qui ne l'ont pas été. Donc en gros, 2/3 depuis la pole, 1/3 pas depuis la pole. Donc on met une option, mais c'est surtout la manière, les 43 millièmes qui l'ont permis de devancer un Verstappen au sommet de son art, parce que Verstappen, quand même, quand il est en train de tout donner pour les qualifs, bah, je dirais que là aussi, c'est un maître du genre. Hein. Or, il a été devancé, et il était heureux de ça. Et c'est ça qui me plaît, moi. Et puis, je rajouterai évidemment Hamilton dans cet hommage, parce que Hamilton, lui aussi, a tout donné. Hamilton, on va y revenir, mais 8e podium à Monaco, égalant un certain Ayrton Senna, bien sûr. Donc, Hamilton, heureux comme tout, excité comme tout. Bref, on avait 3 pilotes, un gamin, je ne vais pas dire 2 vétérans, parce que même si Hamilton a 41 ans, mais Verstappen n'en a que 28. Enfin, c'était jubilatoire, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Et merci, mon Nico, de nous donner l'opportunité de parler de cette séance qualif qui a été absolument grandiose. Et pour moi, j'ose le dire, le temps fort du Grand Prix, bon, avec la victoire d'Antonelli, mais on va y revenir.
Ouais, parce qu'il s'est passé aussi plein de choses dans la course. Mais c'est vrai que ce samedi-là, les amis, Seb, notamment les 5 dernières minutes là, de la Q3, et encore, j'ai même envie de dire la totalité de la Q3, parce que Charles Leclerc a eu un souci qui a fait qu'il était en décalé. Donc du coup, on a vraiment vibré pendant toute la durée de cette séance de Q3. Ça a été le grand moment du week-end avec un Antonelli. Et là, je reste juste simplement sur la qualif, mais qui, moi, m'a surpris. C'est là que je me suis dit, en fait, là, le gars, il est sérieux. Ah, c'est pas clair. Un rigolo, franchement. Ce qu'il a fait en qualif, tu te dis, là, c'est un monstre.
Absolument. Et même, pour revenir au tout début de ta question, cette séance de qualification, dans la globalité, de toute façon, tu regardes en début d'année quand est-ce que va arriver Monaco, et tu sais que la qualification à Monaco, c'est la plus belle de l'année, en tout cas à mon sens. Et comme tu le dis, il y a le trafic, il y a plein de petites galères potentielles pour les pilotes, donc tout est ouvert et c'est génial. Et puis Antonelli, moi déjà, il m'a bluffé. En fait, le vendredi, j'ai vu les Ferrari bien, et je me suis dit, ok, c'est pour Ferrari. Et le samedi, t'as Antonelli qui nous fait une Verstappen, c'est-à-dire que dans la nuit de vendredi à samedi, qui a extrêmement bien travaillé avec son équipe, il place sa voiture en essai libre 3 en première position. Tu dis, ah, ok. Bon, est-ce qu'il va le faire en qualif? J'attends de voir. Et en qualif, il le fait. Devant un Verstappen qui est top, devant un Hamilton qui est top. Et tu te dis, waouh, ok, là, il vient de confirmer qu'en ce moment, tout va dans son sens et que cette qualification, il a été la chercher et pour des millimètres, comme disait Jean-Luc. Et c'est bluffant, c'est incroyable. Et ça fait plaisir de voir les trois ensemble, avec la banane. Pff, quel moment.
Ouais, c'était un truc de fou. Et Louis, en fait, ce qui était génial, Jean-Luc l'a dit, c'est que tu avais ce duel entre Antonelli, Hadjar, un peu les jeunes loups, mais tu avais quand même Verstappen qui était là, avec Hamilton. Enfin, tu vois, on a de nouveau entrevu le très très haut niveau chez les légendes de la Formule 1 et du paddock, quoi, Verstappen-Hamilton.
Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est surtout le fait d'avoir eu autant de personnes dans le match qui rend la chose particulièrement cool. Et puis aussi le scénario comme ça où ils se prennent la pole jusqu'à la dernière seconde. Il y a un moment, tu te dis, bon, bah, je crois que là, ça ne va plus bouger. Et là, Antonelli qui passe. Enfin, donc, non, vraiment très, très cool. Ça fait beaucoup de bien quand même. Hein. Ça te rappelle pourquoi on aimait ce sport avant.
Ouais, exactement.
Mais oui... Moi, j'avoue que j'aurais aimé que ça soit un autre, juste pour changer un peu. Mais alors, respect total à Antonelli qui qui monte encore d'un cran en faisant une pole comme ça, de la manière dont il l'a faite, et puis on en parlera plus tard, mais aussi le dimanche, parce qu'il a été impérial jusqu'au dernier virage dans Anthony Nogues, là où il met un coup de gaz pour faire chasser l'arrière. Dis, ah oui, ok, t'as peur de rien.
ouais, il a peur vraiment de rien. Vous savez quoi, on va se plonger, ça y est, dans ce dimanche, dans ce Grand Prix, avec, je le disais, dans le sommaire, Verstappen qui partait deuxième sur la grille, qui a eu un problème moteur dès le tour de formation. Hein, ils l'ont senti, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a dû se garer tout de suite sur la gauche. Ce qui a marqué ce Grand Prix, et je voulais qu'on ouvre sur ça dans notre débrief, c'est sur le nombre de pénalités qu'il y a eu et qui ont totalement rythmé la course. C'est d'ailleurs le coup de gueule de notre Jean-Luc. Jingle Jean-Luc.
Oh yes, ladies and gentlemen.
Il faut arrêter la Formule 1 parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment à couteau ouvert.
Les moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule. Là. Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
Jean-Luc, j'ai pas compté toutes les pénalités qui avaient été données par les commissaires hier. Les gars, je sais pas si vous avez le chiffre là.
Ouais, il y a eu 10 tout le long du week-end sur les speed limits dans les stands. Il y en a 10 uniquement dans les stands.
Ouais, rien que dans les stands, donc sur leur pit limiteur là. Ça a complètement tué la course. J'ai l'impression que les commissaires ont totalement influencé le sort de ce Grand Prix de Monaco. Jean-Luc, c'était trop en fait, ça a rendu la course illisible. Ça, faut que tu nous racontes ce qui s'est passé et ce que tu as ressenti.
Bah exactement, écoute, toi d'habitude c'est le coup de cœur et j'ai hésité vraiment longuement hein, quand Kylian m'a dit allez c'est quoi ton coup de cœur, j'hésitais entre les deux et puis cette fois ça va être un coup de gueule parce que c'est quand même quelque part inadmissible, même s'il ne faut pas gâcher notre joie de cette victoire et ce hat-trick, hein, il a tout fait le gamin, le grand slam aussi, il a fait la pole, la victoire, le meilleur tour, mais on va y revenir. Ce qui ne va pas, une nouvelle fois, vous allez être surpris, ce sont les commissaires et c'est la FIA. Parce qu'effectivement, on avait prévenu. Alors, ils se sont dédouanés comme ça après avoir appliqué toutes ces sanctions pour vitesse limite. Alors, attention, tenez-vous bien, selon l'aveu même de la FIA, il s'agit de 0,1 km/h, je dis bien 0,1 par rapport à 60 km/h dans la voie des stands. Et ça concerne, pour être précis, parce que selon les dispositions des dispositifs de mesure, je me suis renseigné là-dessus évidemment, c'est la première entrée. Parce que, comme vous l'avez remarqué, comme tout le monde le sait, eh bien, la ligne des stands n'est pas une ligne droite, c'est une ligne légèrement courbe, vous l'avez bien vu. Et donc, avec un radar, oui. Ça, tous ceux qui se sont malheureusement fait attraper sur la route le savent très bien, quand on positionne de manière malicieuse, pour ne pas dire mal intentionné, les radars pour rattraper les gens, bah on y arrive. Hein. Donc là, il suffisait que les pilotes serrent au plus près en quittant la piste, qu'ils mettent la roue avant gauche, ce qui a été le cas, qu'ils franchissent la ligne à un moment, eh bien, le 0,1 km/h, il était là et pas ailleurs. Et malgré tout, on applique le règlement avec un crétinisme absolu, sans tenir compte du fait qu'il y a toujours une marge d'incertitude dans la vie. Parce que 0,1 km/h, on est d'accord, sur 60 km/h, c'est quoi le pourcentage? Vous avez une petite idée? C'est un millième, quoi, en gros, hein, à la louche. Comment peut-on oser casser la course d'autant de gens pour un millième? Alors, il y a eu ça, et puis il y a eu le reste à la tête du client, parce que après, bon, ça, on est habitué, hein, le collège des commissaires se réunit. Alors déjà, moi, il y a une chose qui me choque en permanence. Comment, dans un monde aussi parfaitement organisé que la Formule 1, le collège des commissaires n'est pas capable de rendre des verdicts, soit pendant la course, soit à la fin de la course? Et c'est comme ça que le couperet tombe et que le pauvre Pierre Gasly, et moi je comprends qu'il soit mais ulcéré, tout comme George Russell, voilà deux pilotes qui se sont battus comme des chiens, non seulement pendant le Grand Prix, en passant entre les gouttes, c'est le cas de le dire, mais aussi pendant tout le week-end, on arrive là et on les prive d'un podium à Monaco. Mais c'est scandaleux, c'est une honte absolue. Et je vais dire là aussi, et je vais en terminer là-dessus, parce que je pourrais te dire deux heures hein, sur la question, tellement il y a eu d'erreurs, tellement il y a eu, encore une fois, des pénalités à la tête du client. La pénalité de 5 secondes, en admettant que ce soit la même pour tout le monde, mais elle n'est pas appliquée de la même manière. Je viens de l'évoquer pour Gasly et Russell, qui ont tous les deux perdu cette troisième place du podium, quelque part. Il y en a un des deux qui l'aurait eu, bien évidemment. Mais bon, c'est Pierre qui avait franchi la ligne comme ça, parce qu'on avait frappé Georges précédemment pour ne pas avoir appliqué correctement les 5 secondes dans les stands. Et là aussi, on sait que la faute, elle n'incombe pas au pilote, elle incombe à l'équipe. D'ailleurs, Wolff l'a reconnu. Donc, on sanctionne le pilote alors que c'est l'équipe qui a fait une faute. Bah, moi, ça me choque profondément. Et puis, je dirais une nouvelle fois, c'est 5 secondes, ben quand on l'exécute pendant le safety car, ce qui a été le cas notamment d'Hamilton, ça me vient à l'esprit, mais pas le seul, ouais. Eh bien, c'est pas vraiment 5 secondes de pénalité, puisque grâce au safety car, on bénéficie d'au moins 10 secondes gratos, en passant dans les stands. Donc, cette pénalité de 5 secondes n'a non, pas ça, la même ça, valeur scandale, pour chacun ça. Des pilotes. Voilà.
Non mais ça c'est alors ça c'est un scandale.
C'est une honte.
Je ne comprends pas que les commissaires, que la commission de course là, ne se réunissent pas quand, Ferrari joue bien le coup, ils essaient d'appliquer le règlement, mais que derrière...
Oui, non, mais c'est normal.
Non, mais attends, mais là, en fait, il n'y a aucune plus-value. En fait, la pénalité, elle ne sert plus à rien, quoi. Donc, on va lui remettre, en fait, les 5 secondes. Bon, ça n'a vraiment
aucun sens. Pour faire l'avocat du diable sur le sujet, tu peux aussi dire un pit stop c'est 25 secondes et sous safety car tu es avantagé aussi.
Donc, oui mon Louis, mais quand c'est une pénalité tu dois payer pour la faute que
ouais,
tu as commis.
Ouais c'est ça, c'est que t'as, bah, c'est t'as déconné, ce que dis, donc tu dois ouais, c'est vrai.
Et voilà.
Ouais, mais double peine,
ou t'as
après,
une sanction pour une connerie que t'as fait ou t'as pas de sanction.
Ouais.
Et la sanction elle doit être, ça c'est la loi, enfin je veux dire, je sais bien qu'en F1 on n'est pas dans un domaine où la loi est appliquée de la même manière pour tout le monde, mais normalement tu commets une erreur, tu payes la sanction, on est d'accord, et elle est la même pour tout le monde. Eh ben non.
Ouais, mais après imagine, t'as la voiture de sécurité, tout le monde se regroupe, tu peux pas purger ta pénalité quand tu vas au stand, c'est-à-dire que tout le monde s'est regroupé et à la relance, t'as tes 5 secondes, tu vois ce que je veux dire, ça me paraît...
Non mais dans ces cas-là, vous me voyez venir, puisqu'ils sont incapables, c'est le cas de le dire, et je pèse mes mots, d'appliquer des pénalités tout de suite ou rapidement, eh bien on l'applique à la fin de la course à tout le monde. Et ouais. Là, on a une équité, puisque selon ton résultat et selon le moment où tu franchiras la ligne d'arrivée, le coup près tombe 5 secondes pour tout le monde. Mmh. Okay mmh.
Les gars, comment vous avez ressenti, Louis, comment tu as ressenti là, ce déroulé de Grand Prix? Alors moi, j'avoue que j'étais à Monaco et que...
Bourgeois,
la classe.
Ouais, bourgeois. Non, mais si t'as pas le règlement, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que si t'as pas le règlement sous les yeux, moi j'étais un peu dans le paddock, j'essayais d'avoir les pilotes, d'aller voir Verstappen parce qu'il est sorti très très tôt de la course, donc de recueillir ses impressions. Si t'as pas le règlement sous les yeux et tout ça, en fait tu pannes rien, franchement, sur le Grand Prix. Non, mais pour le dire un peu crûment, tu ne comprends rien à ce qui se passe.
Ouais, il y a un moment, c'était presque risible parce que moi, la première chose à laquelle je pense, c'est le radar, il déconne. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dès que le gars rentrait au pit, il prenait 5 secondes. Donc, c'était assez fou. Tu te demandais où ça allait s'arrêter. T'avais des points d'exclamation jaunes, des points d'exclamation rouges sur l'infographie et tout. Enfin, c'est vrai que ça pouvait être compliqué à suivre. Mais moi, je pense surtout que ça devrait pas... Enfin, je pense qu'on a quand même les moyens de faire une entrée des stands et d'avoir un appareil de mesure... qui permet d'éviter ça, quoi. Parce, je ne sais pas si vous avez des infos, mais il parle de 59,5 km/h le pit limiteur d'Alpine hier, Pierre, dans son interview.
Oui, ils prennent une marge, oui, absolument.
Donc, ouais. donc ça voudrait dire que, on est 0,6 au-dessus. Enfin, tu vois, il y a quand même...
Mais ce qu'ils calculent en fonction de la distance également, dites-moi si je me trompe, mais ils font également en fonction de la distance. Et comme à l'entrée, les pilotes ont coupé un petit peu la courbe, ils ont gagné avec des énormes guillemets de la distance et donc du temps, et c'est pour ça qu'il y a ces pénalités.
Ouais, parce qu'en fait, c'est un calcul sur distance et c'est pas un calcul à l'instant,
exactement.
C'est ça. Ouais, c'est ça.
En plus,
oui, mais c'est que l'outil
c'est
de mesure n'est pas fiable.
Hier, le gars avec sa roulette, là,
exactement.
L'outil de mesure n'est pas fiable.
Ça faisait un petit peu archaïque.
Tu sais, chez le boucher, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. C'est exactement
c'est
ça.
Vrai.
Mais pour revenir comme Jean-Luc, quoi, j'étais dégoûté pour Pierre, je suis très content pour Isaac. Mais c'est clair que j'aime bien toujours
pour les gens qui nous rejoignent, Pierre Gasly a franchi la ligne en troisième position.
Bah c'est ça.
A franchi la ligne en troisième position. Il
se retrouve
septième dans le classement que je vous ai donné. Ouais,
d'ailleurs, même, plein de choses, on va... même quand justice est faite a posteriori et qu'on se rappelle d'un Verstappen qui avait été attrapé par la culotte juste à l'entrée du podium en disant non, en fait, t'es pénalisé, tu descends, on met quelqu'un d'autre. Ou quand c'est fait carrément le lendemain ou quoi, et que ça s'échange les trophées entre Milton, Keys, machin. Bah, ok, justice est faite, mais c'est déjà un peu trop tard, quoi.
Bien sûr, c'est trop tard.
Le pilote,
bah,
il lui faut son podium.
Mais attends, il s'est décarcassé. Heureusement qu'Isaac Hadjar quand même a pu conserver sa troisième place. Tu le vois célébrer, tu le vois faire même tout le protocole d'après course, les interviews et tout ça. Le mec, il parle comme s'il monte sur le podium et on va lui retirer son truc 3 heures après. Ça n'a pas de sens. Les commissaires doivent être capables de prendre des décisions rapides pour que ce soit clair et même que ce soit lisible pour le grand public. Parce que franchement, ça dessert complètement l'image de.
Mais ça fait des années. Ça fait des années. Souvenez-vous, 2002, Fisichella, Raikkonen au Brésil. Et on a dû attendre Imola 2 semaines suivantes pour que Raikkonen sur McLaren donne le trophée à Fisichella sur sa Jordan. Là-dessus, il n'y a aucune progression.
Il y a même des histoires de titres de champion du monde, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est encore un autre débat.
Bon, les gars, replongeons-nous dans le sportif. Mais c'est vrai que ça a quand même rythmé la course. Bien évidemment, on va revenir sur ces pénalités quand on va parler de Pierre Gasly, de George Russell, parce qu'il y en a énormément qui ont été impactés par tout ça. Donc ça va revenir sur le tapis dans ce podcast. Je voudrais quand même qu'on parle d'Isaac Hadjar, qui a vécu un week-end très particulier. Jean-Luc, première séance d'essai, c'est le premier pilote là du plateau à planter la voiture, à détruire sa Red Bull. Il la perd, il explose dans le rail. On se dit que c'est compliqué. Il arrive à signer le 5e chrono en qualif. Et déjà, moi je me suis dit, c'est à l'image de la carrière d'Hadjar, c'est qu'il est capable de faire une fève et derrière, mentalement, il est fort. Il arrive à se remettre dedans le lendemain, à retrouver un peu de confiance. 5e, il a vécu une course. Horrible visiblement parce qu'il a tout de suite fait remonter des problèmes de puissance moteur, enfin il y avait des gros problèmes de fiabilité sur sa voiture et au final il monte sur le podium. C'est la première fois depuis la Chine en 2024, donc plus de 2 ans, qu'un coéquipier de Verstappen monte sur un podium pour une Red Bull. Ça marque quand même un peu la perf du bonhomme.
Absolument. Bah écoute, alors déjà on va se réjouir, comme tu le dis, il y a un Français sur le podium, c'est formidable, et il y a 3 Français dans les points. C'est pas arrivé depuis je crois 20 ans.
2018, si je dis pas de bêtises.
Oui, peut-être, oui. Bon, depuis très longtemps.
Oui, c'est ça, 2018.
En tout cas, c'est fantastique, et ce podium, on ne l'enlèvera pas, et heureusement, ce que j'ai dit en direct sur RMC en le commentant, heureusement, on ne va pas l'enlever, alors qu'il était sous deux suspicions. Hein. La première, vous vous rappelez, c'était sous le régime de safety car, où également il a laissé trop de distance par rapport à celui qui le précédait. Il n'était pas seul d'ailleurs, puisque ce même Hamilton avait laissé trop de distance par rapport à Antonelli. Bon, on a décidé là, pour une fois intelligemment, pour les commissaires, de ne pas les sanctionner, ça fait un. Et puis deux, bah là c'était l'équipe qui a commencé à changer, je crois que c'était les bougies et les bobines, parce qu'il avait effectivement des problèmes moteurs, lors de la neutralisation et le retour au stand, et ça c'était interdit. Donc on l'a compris tout de suite, hein, que c'était comme ça que ça se passait. Puis en définitive, ils ont remis les anciennes, entre guillemets, celles qui fonctionnaient moyennement, et il a terminé sa course comme ça. Bon, tant mieux, il profite de son podium, c'est absolument formidable. Un podium à Monaco, c'est le deuxième podium de sa carrière après celui qu'il avait réalisé en Hollande, mais pour Racing Bull à l'époque. Et comme tu le soulignais, mon Nico, effectivement, c'est le podium d'un équipier de Verstappen depuis très très longtemps, depuis plus de 2 ans. Donc ça, c'est fantastique. On ne l'enlèvera pas. C'est des souvenirs qu'il va garder en mémoire. Et puis, ce qu'a dit également les déclarations d'après-course, hein, c'est qu'on a admiré dans son équipe, Laurent Méquies et tous les ingénieurs, sa constance, même s'il râlait, on le connaît, il est sanguin le bougre, hein. Il râlait à la radio et tout, il disait mais ça marche pas, faites quelque chose. Et l'écurie a fait ce qu'il fallait pour lui permettre d'arriver et de maintenir son écart, même si, je répète, normalement, enfin, sans les sanctions appliquées aux deux autres, il terminait 5e, ce qui était déjà formidable. Et là, il monte sur le podium, on va pas là aussi bouder son bonheur, hein. c'est fantastique.
Ouais, tiens, bon, en plus il monte sur le podium avec son idole Lewis Hamilton et il est revenu sur ça au micro du diffuseur Canal+, Isaac Hadjar, à la fin de la course.
C'est dur de s'imaginer un podium avec Lewis, honnêtement, quand j'étais en karting et je commençais la F4 et je le voyais dominer toutes ses courses, je me suis dit qu'un jour enfin, être sur le podium avec lui, ce serait jamais possible. Je pensais vraiment qu'il allait partir avant que j'arrive. Et il est toujours au top à son âge. Donc c'est tellement impressionnant et je suis tellement fier d'être à côté de lui.
Ouais, voilà, Isaac Hadjar, fier de faire son podium avec Lewis Hamilton. Seb, C'est une course, c'est même un week-end assez paradoxal. Moi, j'ai été surpris, Isaac Hadjar, parce que je suis allé le voir à la fin de sa séance de qualification. Tu te dis qu'il a planté la voiture la veille, il arrive à être cinquième, je me suis dit il va être satisfait, et au final il était dégoûté. Et il disait ouais, ce week-end il se passe pas bien, c'est un peu du n'importe quoi, je sauve les meubles mais je dois faire mieux, je dois être avec les voitures de devant. Le dimanche, bah, il vient un dimanche compliqué, on le disait quand même, ou à la radio il est tendu, et il arrive à aller chercher cette perf. Mentalement, c'est quand même très fort.
Ouais, il est là, il confirme encore une fois. Et moi, je suis extrêmement content pour lui parce qu'il méritait sa place, il confirme qu'il méritait sa place. Et puis, il y a une petite similitude qui est drôle, c'est que la première fois que Verstappen est sur une Red Bull, il la plante à Monaco dans le même virage où Hadjar a planté sa Red Bull pour la première fois. Donc, il y a un petit chemin similaire à Verstappen, et je lui souhaite la même carrière. Mais en tout cas, c'est important parce qu'il n'y a plus le numéro 1 parce qu'il a un problème technique. Et il a répondu présent. Ce que n'arrivait pas à faire Sergio Pérez, ce que n'arrivait pas à faire Albon il y a quelques années. Et donc, ça prouve encore une fois que Red Bull a eu l'intelligence de miser sur lui, que Hadjar, bah, il s'énervait, mais il a réussi à bien défendre sur George Russell parce qu'il avait une voiture qui était bien plus fragile. Et quand on met bout à bout ça, plus ça, plus ça, plus ça, son mérite, son podium 1, il le mérite, et on le voit progresser. C'est important, même mentalement, d'aller le chercher, ce podium. Tu dis, OK, c'est bon, le premier podium, Red Bull, je l'ai fait. Maintenant, c'est la victoire.
Ouais.
Et c'est bien, c'est encourageant. Et j'ai hâte de voir, d'avoir la suite de la saison, maintenant qu'il a été le chercher, son premier podium. Il est encore un tout petit peu derrière, mais il n'est pas si loin que ça. Et ça, c'est très fort pour une première saison chez Red Bull.
Bon, en tout cas, il montre, comme tu disais, que la marque Red Bull, son écurie, peut compter sur lui pour aller chercher de gros points. Et qui plus est, quand Verstappen a un souci de fiabilité, bah, lui, il est là pour mettre la voiture sur le podium. Louis, est-ce qu'il a déjà mis tout le monde d'accord chez Red Bull ? On sait que chez Red Bull, tout peut aller très vite. Ouais. C'est pour ça que je vous ai posé la question, parce qu'ils ont été capables de bouger Lawson en trois courses. Enfin, voilà, on sait que tout va très très vite. Il n'a pas eu que des moments faciles cette saison, Isaac Hadjar, mais mine de rien... Quant à la... On est à quoi ? On est à la sixième course, là ?
Ouais.
J'ai un trou, là. Sixième course. T'es déjà monté sur le podium, t'es allé chercher des points et t'as montré que t'étais capable d'épauler Verstappen. Je me dis que c'est bon, t'as rempli déjà ta part du contrat, non, Louis ?
Sûrement pas loin. Moi, je répondrais quand même non encore pour le moment. Justement parce que le début de saison, il s'est fait bouger quand même, que ça soit... pour des choses où il n'y pouvait rien. Parfois, ça a été peut-être des erreurs de sa part, par frustration, par un peu trop de gourmandise, par plein de raisons. Mais il s'est fait bouger plus que l'an dernier, plus que... Et c'est normal, hein, on savait que le baquet à côté de Verstappen serait très compliqué. Et là, ce podium arrive parfaitement, il arrive à point nommé. Et comme l'a dit Seb... il peut mettre tout le monde d'accord désormais très vite, parce que je pense que ça va rassurer tout le monde là. Tu vois, c'est le point juste avant tout le monde d'accord, ce podium. C'est, je me suis fait un peu bouger. Là, je remets les pendules à l'heure et maintenant, je vais prouver. Et là, bientôt, tout le monde sera d'accord. Mais je pense que ce début de saison fait qu'il en avait, entre guillemets, besoin de ce gros résultat.
Ouais.
Pour remettre un peu de attention, moi je vais pas me faire bouffer comme les autres. Je suis fait d'un autre bois et je suis plus proche de Verstappen que de mes anciens, mes prédécesseurs au poste, quoi, en gros.
Et puis, c'est vrai que sur ça, Jean-Luc, il a doublé son total de points en une course, hein, par rapport aux 5 premières. Ouais. Et ouais, il était à 14, il est à 29, donc c'est énorme.
Non, c'est clair, c'est un super week-end à tous les niveaux, et je pense dans le message envoyé, dans. Tout ça, je dis non un peu parce que je trouve ça un tout petit peu prématuré d'être catégorique, parce que tu l'as dit, ça va très vite, et que s'il plante trois fois la bagnole dans les trois prochains Grands Prix, voilà. Mais voilà, juste, il y a encore tout le monde d'accord, c'est la marche juste après, mais ouais, il a le pied dessus déjà là.
C'est en bonne voie.
Ouais, c'est en
fait,
très très
moi,
bonne
je
voie.
Me dis,
et je suis content parce que je m'étais inquiété une demi-seconde à un moment où je me disais, ah, il se fait balloter là quand même, faudrait pas qu'il entre dans ce cercle vicieux où il va se poser trop de questions, il va forcer, il va enchaîner les erreurs et ça va être la dégringolade. Et en fait, là, tout de suite, boum, Isaac Hadjar, c'est
plus
pas
inquiétant,
comme ça que ça
c'était
se passe.
Miami. Hein. On est là qu'on est.
Ouais, voilà, exactement.
Surtout l'écart, l'écart de perf, une fois, le fait de sortir au début de la course, mais l'écart de perf avec Max, là, c'était énorme. Mm-hmm. Et heureusement, il a remis déjà les compteurs à zéro au Canada. Voilà.
très rapidement, Jean-Luc, parce qu'on a tellement de choses encore à dire.
Ah bon,
mais moi, en fait, j'ai la sensation qu'il est déjà un peu Hadjar en train d'évacuer, tu sais, cette étiquette qu'on collait à ce baquet de baquet maudit et tout ça. En fait, il est en train quand même de montrer que bah, ça y est, ça c'est un peu derrière l'écurie, derrière Red Bull, que oui, même en étant le coéquipier de Verstappen, on peut aller chercher des points. En tout cas, que quand il y a une opportunité pour le faire, et bah, lui, il est là, tu vois. Et que les autres n'étaient pas capables, lui, il le fait.
Oui, je souscris aussi à ce qu'a dit Louis. Hein. Cette très très légère, non pas réserve, mais attente. Voilà, on va attendre la moitié de la saison, si tu veux bien. On va attendre le break et même un peu plus. Et je pense que là, on sera définitivement convaincu. Tout le monde le sera au sein de l'équipe. Bon, Laurent l'a toujours soutenu et bien défendu. Alors, ce que je voulais dire justement quand Louis évoquait ça il y a un instant, c'est quand même la direction de l'écurie a sacrément changé. Hein.
Ah oui.
Juste avant ce podium.
Tout à fait.
Bah, et vous, je ne vais pas vous évoquer Christian Horner et l'abominable docteur Killikill, mais c'est vrai qu'à l'époque, on exécutait facilement. Là, ce n'est plus le cas. Bon, bah, tant mieux, il en bénéficie. C'est une bonne nouvelle.
Oui, oui, puis si on veut même faire un peu de chauvinisme, on voit que le board est français. Enfin,
ouais.
Il y a pas mal de Français au poste clé.
Ouais.
Lui
aide,
est français. Sans parler d'avantager ce pilote ou quoi, mais ça crée aussi tout de suite, tu sais, quand tu as ta langue en commun, ben, tu gagnes un temps fou sur tellement de choses. Donc, c'est quand même un avantage, définitivement.
C'est clair. Allez, rebasculons sur Kimi Antonelli quand même, qui a franchi un nouveau cap en dominant ce week-end de la sorte, qui avait eu qu'une course en plus, je vais lui dire limite tranquille. En fait, il a géré ça comme un vieux briscard, Jean-Luc, cette course Kimi Antonelli. Je me suis noté une petite question, je me suis dit, est-il déjà en fait le patron de la Formule 1 ? Est-ce que ça y est, c'est pas lui là qui a pris le costume de Big Boss, avec la voiture bien évidemment. On a vu que Verstappen, dès qu'il y avait le talent du pilote là qui était en jeu sur un week-end, il était toujours là parce qu'ils se sont tirés la bourre d'ailleurs pendant toutes les qualifs, Antonelli et Verstappen. Mais malgré tout, avec ces voitures-là, j'ai l'impression que ça y est. Il a endossé le costard de patron, Antonelli.
Je réponds oui, mon Nico, 10 fois oui à ta question. Et là, encore une fois, l'attitude de ses pairs, il faut les appeler comme ça. Et je reviens, moi, après les qualifs, hein, parce que ce moment de complicité absolument unique avec les Verstappen et Hamilton qu'il prenait par les épaules et qui le considéraient comme un des leurs. Or, quand même, on additionne 11 titres de champion du monde. Et là, je crois qu'il les a bluffés, le gamin, dans les rues de Monaco, sans limite technique, sans réglementation débile. Là, il faut y aller, il faut en avoir, hein, comme on dit, du courage, énormément, et du talent. Et il l'a fait. Et donc, après la victoire, bah, elle est formidable, on l'a dit et redit. Lui est passé entre les gouttes. Et il en faut du talent, là aussi. Pas pénalisé, rien. Il n'a pas mis un pied en dehors de la ligne. Il a été formidable du début à la fin, à 19 ans seulement pour sa deuxième saison, avec une trentaine de Grands Prix à son actif, mais c'est remarquable. Et puis il est en train de pulvériser toutes les stats, hein, parce qu'effectivement, il avait eu ce trou d'air l'an dernier, il l'a dit, tout le monde l'a dit, Mercedes l'a dit, on l'avait constaté, etc. Mais il a su redresser la barre en fin de saison, et puis là, bah, je ne vais pas dire qu'il est déjà au summum de son art, mais si, cette saison, attends, c'est son premier grand chelem, hein, pôle victoire, meilleur tour, c'est le plus jeune vainqueur à Monaco, il écrase le championnat du monde, à tel point qu'on va en espérer presque que les autres prennent un peu de cran, et notamment son équipe Pierre Russell qui est au fond du trou, le pauvre, pas seulement de sa faute, hein, on l'a dit et redit, mais la manière dont il enfonce le favori du championnat, pour nous tous c'était Russell, on l'a tous dit avant, donc on va continuer à assumer, parce qu'il devait avoir la meilleure monoplace, ça a été le cas, et puis parce que Russell a 28 ans avec le métier qu'il a démontré, le talent qu'il a démontré, bah malheureusement il a la malchance qui s'en mêle, et puis quand même, là aussi, l'écart de perf à Monaco, en qualif avec son équipier, c'est un véritable gouffre, et pour moi, c'est ça le plus préoccupant.
Oui, complètement. C'est vrai que George Russell, une nouvelle fois, à chaque week-end de débrief, là, j'ai l'impression que je dis, les gars, bon, alors là, ça y est, il a pris un coup sur le casque, et en fait, il creuse sa tombe un peu plus chaque week-end, Seb, George Russell. Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un véritable écart de classe, désormais, C'est fou de dire ça. Entre Kimi Antonelli et George Russell. Alors ça s'explique pour plein de raisons. Et en plus, il n'a pas la réussite qui va bien, Russell. Mais c'est assez saisissant de voir ce contraste entre les deux pilotes Mercedes.
Oh bah c'est clair. Tu vois, Antonelli, c'est le ciel bleu que tu as l'été au mois d'août, super beau. Russell, c'est la météo un peu de merde qu'on a au mois de novembre, des nuages, il fait pas beau, etc.
Ah, c'est l'Italie et l'Angleterre.
Ah, voilà, exactement, exactement. Et en ce moment, Antonelli, tout va pour lui, mais tout va bien, mais à tous les niveaux. C'est ça qui est assez incroyable. Et on le voit progresser, on le voit s'épanouir. Il me fait penser un petit peu à Lewis Hamilton en 2007. Tout le monde l'aime pour le moment. Parce que quand tu gagnes trop ensuite en Formule 1, on t'aime plus, évidemment. Mais il a tout qui va dans son sens, et même les petites difficultés qu'il aurait pu avoir. Je veux dire, à Monaco, il y a eu deux départs. Un départ et une relance. Les deux départs sont parfaits, tout va dans son sens, et à l'inverse, on a un George Russell qui se prend, mais week-end après week-end, là, il s'est pris un 50-0 en deux semaines, enfin en deux Grands Prix. C'est énorme, mais malgré tout, j'ai envie de croire en Russell dans le sens où c'est pas possible. Le mec, il a réussi à rivaliser avec Hamilton chez Mercedes. C'est un bon. On n'aime pas, mais il est bon. Tu te dis, à un moment, ça va tourner. C'est pas possible. C'est pas un débutant, c'est pas un branquignol. Et ça va être là où ça va être ultra intéressant cette saison, c'est... Est-ce que Antonelli va réussir à ne pas craquer? Parce que souvenez-vous, au Canada, quand c'était roue, contre Russell, et ben Antonelli, tu sentais qu'il était... Pas fébrile, c'est un trop grand mot, mais... très tendu. Et donc, cette situation, elle va se reproduire. Et comment va gérer Antonelli cette pression tout au long de la saison? Ça va être ultra intéressant. Moi, je n'ai pas envie d'enterrer George Russell. Une chose est sûre, en revanche, quand tu le vois marcher dans les rues de Monaco, bah, t'as dû le voir, Nico. Oh, le pauvre, franchement, il fait de la peine. T'as envie de dire, ok, je désolé, vraiment. C'est...
Ouais.
Ah bah là,
il est dépité. Je peux t'assurer que
la pièce
de qualif,
tombe du
là,
mauvais côté. Tous les week-ends. Il y a un moment, ça va tourner. Le problème, c'est que même si ça tourne, on l'a dit déjà, ça, pour remonter, ça va être dur. Parce que, on n'espère pas qu'Antonelli va lui arriver la même chose. Parce que quand même, il en a dans la hotte hein, depuis le début de la saison. Quoi. Donc, comme tu l'as dit, 50-0. Nico, toi qui aimes le rugby, on est plus sur un Australie-Tonga que sur un match de Formule 1.
50-0, on est sur une... Hein, on peut dire le gros mot, mais on est sur une belle branlée.
Donc là, ça paraît... C'est-à-dire que même si demain, tout s'inverse et qu'ils font 1 et 2 dans le sens de Georges, il va falloir combien de Grands Prix pour revenir? Donc il va falloir...
92, donc c'est pas assez.
Voilà, il va falloir de sacrées défaillances pour notre ami Antonelli, ce qu'on souhaite pas. Donc je pense que Georges, c'est pas un coup derrière la tête qu'il a pris là. Là, c'est peut-être même... il s'est peut-être résolu à ne pas être champion cette année après ça. Quoi. Alors je lui souhaite de pas s'y résoudre et de continuer à se battre. Mais ouais, moi je serais... Entre lui et Gasly, là, ce week-end, tu te dis... Alors, il y en a un, c'est moins grave, parce qu'il n'a pas le rêve d'une vie en jeu. Mais tu te dis, ah ouais, quand même, là, dur, un coup, sur la tête violent. Hein.
Quand Mercedes doit lui faire purger sa pénalité les 5 secondes, le mécanicien à l'avant droit ne touche pas la voiture. Et c'est le mec à l'avant gauche qui la touche et qui se dit, merde, je l'ai touché. Et donc, ils enchaînent tous. Tu te dis, ces micro-détails. Ouais. Antonelli, ça passe, parce qu'il n'a pas de pénalité. Mais Russell, normalement, Mercedes ne fait jamais cette erreur. Et là, ils la font... sur Russell, à Monaco, où tu ne peux pas doubler. Il n'y a rien qui va, le pauvre.
Après, certains complotistes diront que peut-être que Toto, il a choisi aussi son champion du monde.
Bon, non.
Mais on ne peut pas dire ça.
Non, là, je ne crois pas, sincèrement. Alors là, tu vois, autant Zach Brown l'an dernier, je le remets une couche, mais là, non, Toto Wolff, non, sincèrement pas. En plus, ouais. on en avait parlé, tu te rappelles, mon Nico, lors du dernier débrief, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça.
Je pense sincèrement qu'il n'est pas comme ça, mais bon.
Il n'est pas comme ça. Lors de l'affrontement, Nico Rosberg, on va y arriver, Rosberg. Avec Hamilton, et pourtant on connaît toute l'affection, l'amour même qu'il avait pour Hamilton, et ben il les a laissés se battre. Hein. Non, c'est un sportif dans l'âme, lui.
Lui.
Louis, qu'est-ce que vous voulez dire?
Eh ben j'ai oublié.
Oh merde, ah ben Louis.
Non, sachez. Alors, je vous raconte les coulisses. Il y a Kylian qui m'appelle.
Exactement,
dans les ordres.
Je viens de prendre les ordres. J'ai dit attends, coup, je vais ajouter un truc. Là, j'ai repris la discussion et pfiou, le truc a disparu.
Ça alors, devait... je sais comment.
Non,
je
ça y est, c'est revenu. Antonelli, pour le moment, il est tout seul en tête.
Ouais.
Mais demain, si y a un concurrent à Antonelli qui revient dans le jeu, et avec l'avance qu'il a sur Russell, il y aura des consignes, c'est sûr. Et là, consigne de George Russell, allez, tu laisses passer, tu laisses passer Antonelli. Oh là là, il peut vivre une fin de saison terrible.
Et même pour sa réputation, hein. Alors qu'on entend parler des rumeurs Mercedes,
ça peut aller
Verstappen,
vite,
Piastri chez Red Bull, Russell, attention.
Ah bah oui, contrat court, attention. Petite stat, sachez que à chaque fois qu'un pilote s'est imposé 5 fois d'affilée, ce qui est le cas de Kimi Antonelli, il a toujours été sacré champion du monde.
Bah oui.
On en est à un point où on se dit que ça ne peut plus lui échapper. Ah ouais, c'est clair. Ça peut, moi, j'en suis à un point où je me dis en fait que ça ne peut plus lui échapper. Alors, c'est encore long, il y a beaucoup de courses.
Ah, c'est tôt, hein, tout, Nico. Il reste 18 tout, Grands Prix, ouais, tu fais le total de points, c'est hallucinant, mais bon.
Mais il y a une telle sensation, il a tellement gagné là, dans des circonstances de course différentes, sur des tracés différents, que je me dis que...
Là, il est dans la dynamique de l'intouchable. Tout peut évoluer, il y aura la pause de l'été et tout, mais tu te dis pour le moment, tu ne vois pas comment ça peut se passer.
Après, comme dit Jean-Luc, il reste 450 points hors course sprint. Donc, ça peut aller vite, mais il a petit matelas.
C'est une certitude. C'est une certitude, mais il commence à avoir un joli matelas. Les amis, passons sur un pilote qui a vécu un week-end complètement différent au niveau de la dynamique. Et pourtant, c'était notre grand favori pour beaucoup d'entre nous. Si vous vous replongez dans les pronos là, qui sont balancés sur la page Insta Paddock RMC, chaque avant Grand Prix, on vous balance les petits pronos de la team du paddock. Charles Leclerc a été désigné comme le vainqueur chez beaucoup de monde. Franchement, on y a cru le vendredi. On pensait vraiment que c'était le meilleur, qu'il avait la meilleure voiture, que ça allait le faire chez lui pour sa deuxième victoire à Monaco. Et il a vécu un samedi très difficile et un dimanche cata. Il a dû abandonner après une voiture de sécurité et un nouveau départ. C'était le premier départ où il se replante, oui. C'est le premier départ où il se plante, je crois, Charles Leclerc, où il dézingue son écurie parce qu'il avait des problèmes de frein. Il a encastré sa voiture dans le mur. Et il a été dur avec son écurie. On le lit entre les lignes. C'est rare que Charles Leclerc... En général, quand il fait une erreur, c'est le premier à le reconnaître. Là, il a chargé son équipe.
Dès le début.
Je suis pas du genre à me trouver des excuses et je suis le premier à pas avoir honte de dire quand je fais le con et que j'en mets trop. Mais là, j'ai pas trop les mots. J'ai pas forcément envie beaucoup de parler parce que j'ai peur d'être un peu trop dur dans mes mots. Mais c'est inacceptable. Très honnêtement, c'est inacceptable. Les freins, les problèmes de freins que j'ai eu dans les deux derniers week-ends, c'est juste inconduisible. Enfin, je peux pas être plus bas sur les freins que ça. Et les freins arrière ont pas du tout fonctionné. Mais juste pas du tout fonctionné. C'est juste les freins avant qui ont fonctionné. C'est comme ça depuis deux week-ends. Et quand les pneus sont froids, il faut être encore plus précis. Et j'ai juste. Il y a juste. C'est pas que j'ai pas le contrôle, c'est que c'est impossible d'avoir le contrôle. Les freins sont on, off, on, off. Et ça a été mon problème depuis. Les deux dernières courses. Extrêmement frustré, extrêmement énervé, extrêmement triste en général parce que c'est la maison. Mais c'est pas de l'énervement contre moi aujourd'hui. C'est difficile.
Voilà Charles Leclerc au micro de Canal+. Agacé, on a vu des images, Jean-Luc, de Leclerc dans le garage. Je crois que je l'avais jamais vu aussi dans son body language, là, en train de parler à ses ingénieurs, mais aussi vindicatif. Tu sentais vraiment qu'il avait envie d'en découdre. Il était en train de péter les plombs, quoi. Après ce souci, tu sens qu'il a été en galère tout le week-end, qu'il y avait quand même des points à aller chercher. Il était sur le podium au moment où il se plante. Et que c'est encore une fois à cause de sa voiture et d'un manque de fiabilité qu'il n'arrive pas à aller chercher un résultat. Et en plus, c'est la semaine où il a annoncé sa prolongation, longue durée, et où l'objectif, c'est d'aller chercher un truc de grand avec Ferrari. Mauvais timing, mon Jean-Luc, ce week-end pour Leclerc.
Bah oui, mon Nico, et une fois de plus, je le comprends parfaitement. C'est un garçon, une nouvelle fois, franc et tout à fait honnête, comme il l'a dit, même plus souvent qu'à son tour. Il prend sur lui lorsqu'il commet une erreur. Là, il a des problèmes de frein. Alors, le problème, c'est que c'est un drame national. Pourquoi ? Parce que le fournisseur historique de frein de Ferrari s'appelle Brembo. Et vous l'avez compris, c'est une usine italienne. Donc, Brembo a déjà pondu un communiqué quelques heures seulement après le Grand Prix en disant « Ah, c'est pas nous !» évidemment, en disant « Mais ça fait 50 ans qu'on est là, etc. » Non, ça ne veut rien dire. D'abord parce que je vais introduire une nouvelle fois une notion technique sans l'être trop, mais vous allez comprendre ce que je vais dire évidemment, c'est qu'aujourd'hui, les freins ne sont pas isolés du reste de la monoplace. Pourquoi ? parce que avec ce système de recharge électrique uniquement sur le train arrière, eh bien, il y a également toute une électronique derrière qui se met en branle, c'est le cas de le dire, et qui vient charger la batterie au plus mauvais des moments, et le pilote n'y peut rien. Donc quand il appuie sur la pédale de frein, certes, il commande le dispositif de frein, mais le freinage du train arrière est totalement altéré par cette recharge de la batterie. Et ça, et tous les pilotes vous l'expliqueront très simplement. Et c'est ce qui avait conduit, une nouvelle fois, Fernando Alonso à sortir de la piste, vous vous rappelez de cette image, hein, aux essais, à la sortie du tunnel, à plus de 300 km/h, quand il touche la pédale de frein, le train arrière lui échappe brutalement sur l'Aston. Et bien voilà, c'est exactement ce phénomène-là qui a dû se reproduire. Alors, Charles n'y est absolument pour rien, comme il le dit, avec en plus les pneus qui ont perdu en température sur une piste qui était très glissante à cet endroit, puisqu'on a vu avec quel soin tous les commissaires de Monaco en a fait venir les machines. Enfin, c'était un drame national pour enlever les fameuses marbles, les morceaux de gomme qui étaient à l'extérieur. Et d'ailleurs, Lance Stroll, qui est sorti au même endroit et qui a entraîné la neutralisation, n'a pas dit autre chose. Il a dit exactement la même chose en disant j'ai été poussé du train arrière. Alors là aussi, De La Rosa, qui est le communicant de l'équipe, a dit non, c'est pas ça. En fait, c'est lui qui a pas trop senti les freins. Non. C'est que le problème actuellement, en Formule 1, les pilotes ne maîtrisent plus la totalité de leur freinage. Il y a des éléments techniques dus au règlement qui font que, à un moment, ils sont passagers de la monoplace. Et on a bien compris que c'était exactement ce qui était arrivé à Charles. Il s'est retrouvé passager de sa monoplace. On ne peut pas imaginer un pilote avec son talent et sa maîtrise commettre une erreur aussi énorme. Comme il a dit, sa première expression aussi, c'était « je me retrouve comme un idiot ». Bah oui, ça fait ridicule, quoi. On se dit « mais comment il peut se mettre dans le mur à 40 km/h dans le virage Anthony Noguès juste au moment de la relance ?» Bah voilà, donc tout ça est exprimé. Ça fait long et c'est compliqué, mais il a raison. Alors évidemment, là, il va gros débriefing parce que je pense qu'il y a un problème de frein. Par parenthèse, eh bien, Hamilton, et personne ne le dit, il est passé avec des produits de Carbone Industrie. Carbone Industrie, c'est une compagnie française qui fournit des freins en Formule 1 en carbone depuis des dizaines d'années. Et pourquoi ? Parce qu'Hamilton avait l'habitude d'utiliser des produits Carbone Industrie chez Mercedes. Donc on ne le dit pas, mais je peux vous dire que c'est des produits Carbone Industrie. Donc là, il y a un drame national avec Brembo qui est accusé par Charles Leclerc. Et alors, Leclerc dit on a la solution. Ben vous allez voir qu'il va avoir des freins Carbone Industrie lors du prochain Grand Prix,
il l'a dit.
En Espagne. Et ben voilà.
Il l'a dit que Hamilton avait trouvé la solution depuis quelques temps et que tu lisais entre les lignes qu'il allait s'y mettre. Louis, est-ce que tu as eu mal à ton Charles Leclerc?
Évidemment, mais j'ai beaucoup aimé la radio on board tout de suite. C'est qu'il est désespéré et il dit « Ah non, mais celle-là, je la prends pas pour moi, en fait. J'en ai plus rien à faire. » Genre. Et donc, ça montre bien. Et en plus, là où on le croit, c'est qu'on l'a tous dit, vous l'avez redit, Charles, c'est le premier à s'auto-détruire après une erreur. Parfois même, on l'avait dit dans ce
presque
podcast,
trop, oui.
C'était too
presque
much.
Trop.
Parce que du coup, tu disais « Non, mais c'est bon. » Enfin, je veux dire, arrête. Mais donc là, on le croit à 100%. Et quand tu entends Jean-Luc dire qu'il y a un moment, ils sont passagers. Enfin, comment ça, ils sont passagers d'une Formule 1? Enfin, c'est les mettre en danger de mort, en fait. Enfin, genre, ils doivent pouvoir maîtriser leur voiture. Donc c'est fou d'en arriver là. L'imbroglio Brembo, qui est italien, partenaire historique, hein, 50 ans avec la Scuderia, et tu changes les éléments sans le dire. Un peu, on voit ça dans d'autres sports aussi parfois. Enfin bref, c'est très drôle, mais ça montre encore une fois, et on revient toujours là, Jean-Luc. Hein. Elle est pourrie, ouais. Cette réglementation.
Ah, tu me fais plaisir, mon Louis.
Non, mais en fait,
tu
c'est,
me fais plaisir.
C'est-à-dire que,
parce que
on parle
permets-moi de rajouter
plein de
un
choses,
mot, excuse-moi.
Mais c'est le problème, et le sol, il part de là. Hein.
Rappelle-toi de ce que tu allais dire, hein, surtout.
Ouais.
Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que également, la FIA s'est désavouée totalement. Tu sais qu'on a interdit, comme sur une douzaine de grands prix potentiellement, on a interdit la recharge totale en électricité, vous l'avez vu,
oui.
Ça
oui.
Soi-disant, oui. Parce que les voitures allaient être trop performantes à la sortie du tunnel. Mais vous avez déjà vu ça quelque part, vous, en 70 ans de Formule 1, qu'on limite les performances parce qu'on a peur que ça aille trop vite à la sortie du tunnel? C'est du grand n'importe quoi. Voilà, je l'ai dit.
C'est ça.
Ouais. Bon bah c'est bon, on a refermé le chapitre Charles Leclerc, va falloir voir comment il réagit. Il y a une course à Barcelone là dès le week-end prochain, donc ça va lui permettre de switcher, mais on sentait que ce Grand Prix à la maison, surtout quand on voyait ses perfs du vendredi, ça peut le marquer. Seb, tiens, bah parlons de son coéquipier Lewis Hamilton. J'ai mis en comparaison Hamilton et Verstappen, les deux tauliers là du paddock qui ont vécu des week-ends différents, des destins un peu croisés. Ça a très bien commencé pour les deux, hein. Les deux ont été rapidement très performants. On parlait de la qualif où ils ont été monstrueux tous les deux. Et puis tu as ce départ où Verstappen il a pas de puissance moteur. Et par contre Hamilton qui fait une course très très solide. Voilà, le destin un peu croisé entre les deux légendes quoi, ce week-end à Monaco.
Ouais, et Hamilton qui confirme après le Canada qu'il est là, il est de retour. Il semble épanoui, il semble heureux. Et en fait j'ai l'impression que Hamilton de plus en plus ces dernières saisons, c'est si tout va bien, il est incroyable. Et quand il y a un petit caillou dans la chaussure, c'est « Oh, j'aime pas trop, je suis pas très heureux » et ça sous-performe. Et là, on le voit depuis plusieurs semaines, tout va bien, il est serein, il est content, il est épanoui, son équipe est contente. Et on voit un peu un croisé avec Verstappen, souvenez-vous, 2021, saison de folie. 2022, on a Hamilton qui est loin, Verstappen qui est tout devant, on se dit « Ça y est, les courbes se sont croisées, c'est fini. » Et là, on se dit « Tiens, c'est pareil cette saison, sauf que c'est à l'inverse. C'est Hamilton qui revient, Verstappen, avec des énormes guillemets, qu'on oublie un petit peu, qu'on voit moins devant. Donc c'est vrai que c'est drôle de voir ces chemins qui se croisent et se recroisent. Mais en tout cas, de voir Hamilton si haut revenir comme ça, j'adore. Et pour être très honnête, moi j'aurais aimé, mais tellement aimé qu'il gagne cette course. Je l'avoue, hein, devant ma télé, la deuxième relance, je me suis dit « Allez Lewis, vas-y !» Va nous la chercher, ça serait tellement beau. On l'attend.
Tu sais ce que je voulais voir, moi.
Du tout. Ouais.
Moi, je voulais voir la bataille Hamilton Verstappen en piste, en fait. C'est ça que tu vois après la séance de qualif du samedi.
Bon après à Monaco, ça aurait été limite. Hein.
Ouais, mais t'avais envie de voir quand même un peu dans les échappements, voir s'il y en avait un qui se faisait undercuté, tu vois, qui pouvait se passer des choses quand même sur la piste. Et moi, c'est ça. Moi, mon plus gros regret, c'est de voir que Verstappen, il a même pas pu prendre part à cette course parce qu'il y avait tout pour le spectacle.
Là. Mais alors, c'est privé de dessert. On sait bien, c'est qu'on a un dessert qui arrive là, dans quelques jours, avec Barcelone. Donc on va pouvoir. Parce que ça fait deux grands prix que Verstappen il se bat avec Hamilton. Donc on les retrouve, ça fait plaisir. Moi j'aime bien, j'ai vraiment hâte de voir la suite.
Bah alors je dois être un peu salaud, moi, mais parce que moi, quand sa bagnole a pas démarré, j'étais content.
Ah non.
Alors, il fait
une qualif.
Après avoir vu que personne l'avait percuté, évidemment, parce que c'est très dangereux. Mais je veux dire, le fait qu'il ait eu un petit problème au départ, je me suis dit, ah, ça va animer le truc. Je voyais déjà Gasly gagner une place, tu vois. Moi, j'étais déjà parti sur mes intérêts et j'étais pas mécontent, quoi.
Alors, moi, j'avoue que j'ai été dégoûté pour lui parce qu'après la séance de qualification qu'il fait Verstappen quand même, où il aligne des tours mais sublime, tu te dis que c'est quand même dramatique qu'il puisse pas défendre ses chances.
J'ai cru pour la première fois de ma vie que j'allais avoir un bon prono dans cette émission. J'avais mis deux Ferrari, une Mercedes sur le podium, je me dis putain les gars, je vais y arriver. Pas du tout.
Me laisse pas tout seul dans le club de ceux qui ont jamais un bon prono.
Moi là ce week-end j'ai fait un grand zéro pointé. Moi ce week-end j'ai fait un énorme zéro pointé.
On doit être beaucoup non, parce qu'on avait à peu près tous mis McLaren, non?
Non, moi j'ai mis deux Ferrari, une Mercedes.
Pas mal.
Bon Nico, c'est maintenant qu'on doit parler de Verstappen parce qu'on n'en a pas parlé finalement.
Vas-y,
je vais la faire brève aussi. Donc je l'ai dit, en qualif formidable, une bataille fantastique, et c'est rare de l'avoir vu heureux en ayant été battu. Hein, là, vous pouvez chercher aussi. Ah ouais, et là, il était excité comme une puce, il était heureux. Bah, ça, c'est formidable. Encore une fois, c'est pour ça qu'on adore la Formule 1 quand c'est du sport. Quand c'est du sport, c'est absolument fantastique. C'est émoustillant, c'est excitant, c'est tout ce qu'on veut. Et là, bah, moi, non, je suis désolé, Louis, je sais que tu plaisantes, mais je ne peux pas souscrire. Moi, quand je vois un des favoris tout perdre pour des raisons techniques grotesques, lamentables, honteuses, tout ce que vous voulez, dans les premiers mètres, c'est crispant. Quand les pilotes commettaient des erreurs avant, vous voyez ce que je veux dire, avant, bah c'était de leur faute probablement. Bon, il pouvait y avoir un problème d'embrayage, de ce que vous voulez, mais le pilote y était un petit peu pour quelque chose. Là, il y est pour rien du tout. Et le drame, et on y a échappé de très peu, c'est que là, il avait 20 voitures derrière. Ah oui, heureusement, tout le monde l'a évité. Ouais. Mais je peux vous garantir, je touche du bois comme je le fais à chaque fois en disant ce genre de choses, un jour, ça ne va pas fonctionner. Il y en a un sur la première ligne qui aura un problème grave et il va se faire emplâtrer par un pilote arrivé de la dernière ligne à plus de 200 km/h et il y aura un mort parce que c'est comme ça que ça va se terminer. Donc, ou deux. Donc, c'est exactement ce qui s'était produit, je le dis à chaque fois, parce que je l'avais vécu en direct, hein, ça m'avait terriblement choqué, avec un jeune pilote italien extrêmement talentueux au Canada qui avait percuté la Ferrari de Didier Pironi, qui avait eu un problème au moment du départ sur la première ligne. Donc là, la FIA joue avec la vie des pilotes. Donc on joue avec ça, et on joue avec le talent, on joue avec les efforts des pilotes et aussi d'une équipe. C'est une honte. Alors on avait trouvé un ectoplasme, là aussi, sur une jambe de bois, un cataplasme plutôt, celle-là vous allez pouvoir la reprendre, avec je ne sais plus quoi, qui était censé aider au décollage. Vous vous rappelez, on nous a sorti ça il y a 3 Grands Prix. Mmh. Ah ouais, non, là, maintenant, on a dit qu'il allait y avoir, quand il y a un capteur qui décèle que ça part mal, et ben, il y a une assistance électrique qui permet de s'en sortir. Vous l'avez vu, là, vous, l'assistance électrique ? Non. Bah, donc, ça ne fonctionne pas non plus. Ça veut dire que quand on rajoute des Gremlins aux Gremlins, et ben, on va dans le mur. Bah, c'est exactement ce qui s'est produit. Voilà, donc tout ça, une course avortée, c'est le cas de le dire, et un Verstappen, vous l'avez vu comme moi, qui a été boire un verre sur son yacht, et il a bien raison. Dans ces cas-là, et ben, il n'y a plus qu'une chose, c'est aller se bronzer, écouter de la musique, hein, parce qu'il pourra pas le faire si ça lui arrive encore à Barcelone, mais c'est tellement lamentable, tellement grotesque, et il s'est retrouvé, bah, tout le monde l'a souligné, sur les voies d'un certain Kimi Raikkonen à l'époque, qui avait fait pareil. Bon, bah, écoute, quand c'est tellement désopilant de conneries, il n'y a pas d'autre mot, bah, faut réagir comme ça, faut se protéger, hein.
Il est à la maison en plus, Verstappen, donc il connaît ouais, tous les chemins, hein, les yachts il connaît. Tiens, allez, passons à Pierre Gasly. Je me suis mis un très mauvais jeu de mots, les gars, j'ai marqué Pierre Gasly.
Yes. Ça allait drôle.
C'est affreux.
Non, mais parce que c'est vraiment un vrai gâchis, cette course de Gasly, qui s'est bagarré pour aller chercher la 9e place en qualification avec une voiture sur laquelle il avait des difficultés, il n'avait pas un bon feeling. C'est vrai que moi je l'ai croisé et je lui ai posé la question là, après la séance de qualif. Il disait franchement, je suis super heureux parce que j'ai réussi à maximiser le truc. On n'a pas une bonne voiture ce week-end, ça fait 2 grands prix que je suis pas à l'aise. Il arrive à la placer 9e, il fait une course de zinzin sur le restart, il arrive à passer Isaac Hadjar et à être en 3e position, et tu sais qu'il y a ces pénalités qui viennent flinguer sa course. Franchement, ça a été un vrai crève-cœur. On l'écoute et après on débriefe la réaction de Pierre Gasly avec Canal+.
Honnêtement, je sais pas quoi dire, je suis dégoûté.
7e, dans les faits c'est un bon résultat, mais vous avez franchi la ligne d'arrivée en 3e position, il y a ces pénalités, comment vous les expliquez et dans quel état d'esprit êtes-vous?
Honnêtement, je sais pas quoi dire. Honnêtement, j'ai pas de mots. On fait la course parfaite. On part 9, on finit 3, on passe la ligne en 3e place. Les deux fois, je mets le pit limiter avant la ligne. Le pit limiter, il est réglé à 59,5 avec la limite à 60. C'est pas. Honnêtement, c'est un podium à Monaco, quoi. Je suis dégoûté.
Ouais, je suis dégoûté. Voilà, Pierre Gasly, qui est passé à côté d'un podium à Monaco, les amis. Louis, franchement, c'est super dur parce que il fait une course incroyable. Franchement, j'ai même pas vu qu'il avait été élu pilote de la course hier.
Antonelli, je crois.
Antonelli.
Ouais. Ah bah tu vois, mais pour moi c'est Pierre Gasly limite le pilote du Grand Prix. Il fait une course incroyable, Louis Gasly.
Alors il fait un super départ, ensuite il fait une course solide, il a un pilote dans les échappements tout le long. Bon, tu vas me dire que c'est l'endroit le plus simple pour le garder derrière de la saison, mais bon, il fait une très bonne course, jamais une erreur, t'as beau être dans ses échappements, il fait pas d'erreur. Les restarts, il les fait super. La stratégie se passe pas trop mal parce qu'on sait que chez Alpine, parfois, ils font un super premier stint et puis après, ils sont nulle part sur le deuxième. Donc là, tout était avec eux et c'est une histoire de ligne. Moi, déjà, j'étais hyper vénère pendant parce que je me disais, ah, c'est trop bête. Mais après, ça m'a fendu le cœur, cette interview, quoi. Il fait trop de la peine. Il fait trop de la peine. Et comme l'a dit Jean-Luc au début de ce podcast, bah, il méritait. Et du coup, c'est horrible de lui enlever ça comme ça pour ça. Et peut-être qu'en plus, on apprendra dans quelques jours que l'erreur venait peut-être plus de la FIA. Et de
son... Ils le diront pas.
Ils le diront pas, non, mais on le comprendra peut-être. Ouais. Mais en fait, moi, là où j'ai du mal à comprendre, c'est même genre sur 24 Grands Prix, ça arrive, sur une saison, ça arrive quoi, entre 0 et 2 fois sur la saison, peut-être, je sais pas. Et là, t'en as pas loin de 10 ou 10, tu nous disais, sur un même week-end, sur une même course. Et ça alerte personne. Personne ne se remet en cause. Non, c'est les pilotes qu'on déconne. Mais vous voulez pas vérifier votre mesure plutôt? Parce que ça me paraît bizarre quand même écuries.
Je suis d'accord avec toi, mais de toute manière, ok. Même s'ils se rendent compte qu'ils ont fait une énorme fève, ils font quoi? Ils ont flingué la course de tout le monde. Ouais. En fait, tu vois, qu'est-ce que.
Et même Russell, imaginez, il perd le championnat.
Tu peux pas revenir en arrière.
Oui.
Tu peux pas.
Comment tu reviens en arrière? Tu peux pas revenir
c'est
en
clair,
arrière.
Tu peux
donc,
pas.
Tu fais quoi? Non, potentiellement, t'as flingué un podium pour Gasly.
Le seul moment où tu peux encore revenir en arrière, mais enfin, je dis le seul, c'est même pas possible dans les faits, c'est avant que le premier fasse sa pénalité. De dire, oulala, je crois qu'il y a un problème, on annule tout le monde, tu vois. Mais à partir du moment où vous l'avez dit, à partir du moment où il y en a un qui rentre et qui fait ses 5 secondes, là,
c'est injuste.
Partir, t'en as un, à partir du moment où t'en as un qui a purgé,
Mais c'est un beau camouflet pour la FIA. Ça, plus le goudron, même si le goudron, c'est pas. Mais genre, ouais, là quand même, c'est trop. Enfin, je veux dire. Le gars, ça fait combien d'années qu'il est chez Alpine et qu'il se farcit des tracteurs et des tracteurs. Il fait tout, il lâche rien, il lâche jamais rien, il fait plus d'erreurs, plus jamais. Là, il fait le week-end parfait à Monaco. Il passe en troisième et on lui enlève pour 0-1. C'est sûrement une histoire de courbe ou d'erreur de mesure. Enfin, c'est affreux.
Non, c'est à pleurer. C'est à pleurer. C'est un mot, si tu veux bien, mon Nico, sur Pierre.
Bah,
alors, évidemment, j'abonde dans tout ce que dit Louis. Un pilote exceptionnel, un talent exceptionnel, un podium à Monaco, peut-être jamais plus dans sa carrière, il aura l'opportunité de monter sur la boîte, hein, comme on dit. Donc, le priver de ça pour des histoires aussi sordides, non, moi, je me répète, la seule application possible, mais elle doit être pour tout le monde, puisque la FIA et les commissaires sont incapables, j'isole le mot, sont désincapables, d'une part, mais en plus sont incapables d'émettre un jugement en temps et heure, eh bien on applique ces pénalités à la fin. Ça évitera aussi le pataquès de ne pas comprendre pourquoi. Moi, en direct, pareil, je l'ai vu arriver troisième. Je savais qu'il avait les pénalités. Et à un moment, je le vois septième. Ah, je dis, il a dû avoir un problème dans le dernier tour. Ben non, c'est que lui, on lui a appliqué tout de suite les 10 secondes de pénalité et pas à d'autres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, pour ne pas dire ce bordel. Ou on l'applique à tout le monde, ou on l'applique à personne, encore une fois. Et je pense que la seule bonne mesure, c'est de dire maintenant que les pénalités, il faut les rajouter à la fin, après le résultat final. Et au moins, ce sera clair pour tout le monde. Et on aura la liste. Alors, on parlait des noms. Bah, je les ai notés. Colapinto, Gasly, Stroll, Hülkenberg, Pérez, Russell, Hamilton, Piastri. Voilà la liste des gens pénalisés pendant ce Grand Prix.
Donc, on est à combien d'écuries différentes? 5 ou 6, quoi. La moitié, quoi.
Ouais, plus de la moitié.
Oui,
donc c'est honteux. Ouais. Donc quand c'est comme ça, moi j'ai coutume de dire, c'est pas les pilotes qui déconnent ou les écuries, c'est le règlement qui va pas.
Bah, oui.
C'est tout
ça. Et le problème c'est que la F1 passe pour un peu pour des amateurs. Entre ça, la réalisation depuis le début de la saison qui est pas bonne, qui est vraiment pas bonne. Ouais. Ce week-end ça a été, mais qui est vraiment pas bonne. Ça plus le règlement, tu dis
l'image,
les gars, vous brassez, mais de l'argent comme jamais, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Ouais. Les gars, je pense à Gasly qui passe des semaines à bien s'entraîner, à se faire chier à s'entraîner, à mesurer tout ce qu'il mange. Et là, on lui retire, comme tu le disais, son podium pour 0,1 km/h. Mais non.
Mais un peu de professionnalisme au plus haut niveau, ça changera. Hein. Parce que là aussi, Dominique Ali va nous dire « tout va bien, la Formule 1, c'est... Bah oui, ça a une audience extraordinaire. Bah oui, mais ça ne va pas durer. Hein. »
Tu sais que tu le fais de mieux en mieux, l'accent italien. Vraiment. Vraiment, là, on est en train
Je te l'ai fait pour Brembo, je te le fais pour Dominique.
Exactement, c'est pour ça, il est vraiment monté en puissance. Sachez que Pierre Gasly, depuis le début de la saison, hormis son abandon à Miami, là, son accrochage, il a terminé à chaque fois dans les points. 10e en Australie, 6 en Chine, 7 au Japon, 8 au Canada et donc 7 à Monaco, alors qu'il a franchi la ligne en 3e position.
Mais
mon coup de cœur du week-end.
Mais oui, mais si on regarde, à part la saison où ils ont le tracteur avec Esteban, là, et où t'as rien à faire à part 17e, fallait monter. Sauter au plafond.
Il est
incroyable. Ces dernières saisons avec AlphaTauri, il est monstrueux. Il gagne, il met de la voiture 4e ou 6e en qualif.
Il est là.
Donc, pour avoir cette consistance, cette rage au milieu du midfield, le pire endroit, le ventre mou, quoi,
dur.
Ou le ventre dur, mais n'y a pas pire pour se perdre, pour se dire et à quoi bon, 7 ou 8, 8 ou 12, qu'est-ce que, enfin tu vois. Et non, chaque week-end il est là, et ouais, non, c'est terrible. Je sais pas si, je pense pas, mais s'il écoute le paddock est avec toi, Pierrot.
On est avec toi,
on est solidaires.
C'est dit.
C'est affreux. C'est dégueulasse.
Ça va revenir, il va le refaire. Allez, on y croit.
On y croit, et franchement, super niveau depuis le début de la saison de Pierre Gasly. C'était vraiment le crève-cœur du week-end.
Ah ouais, ouais.
Je pense cette fin de course.
Et on n'enlève rien à Isaac, hein, on est hyper content, hein, mais c'est
mais
juste
non,
que.
Bien évidemment. Mais
quand tu passes la ligne en troisième, bah, t'as envie qu'il soit troisième.
Et t'as vu, son équipe n'avait pas osé lui dire, hein. Ils l'ont dit après.
Ouais.
Ils l'ont
alors moi j'ai lu deux versions.
Ouais, je comprends rien cette partie-là.
Moi j'ai lu qu'il aurait été prévenu mais qu'il a voulu célébrer quand même.
Attends, Louis, pour reposer le contexte à nos auditeurs, en fait quand Gasly franchit la ligne, il célèbre, tu le vois sortir les points et tout ça de la voiture comme s'il était super fier de son podium. Deux versions en effet, t'as la version où bah, il n'était pas au courant et il célèbre, et t'as la version où en fait Jean-Luc, bah, il était au courant, Gasly, qu'il allait prendre tout de suite la pénalité de 10 secondes, je crois que c'était 10 secondes qu'il prenait. Hein.
Ouais,
5 plus 5, 2 fois 5.
Ouais, 5 plus 5, 2 fois 5, et que du coup en fait c'était une célébration un peu, tu sais, ironique pour se moquer de la FIA, et voilà, ouais, donc peut-être. J'avoue qu'on lui a pas demandé.
J'ai du mal à le penser, parce que tu sais, après deux heures d'effort quasiment, hein, après cette attente, cette tension, etc., je crois que ça explose, tu vois, je veux dire, il est fou de joie, parce qu'il pense probablement plus à cette putain de pénalité, et puis encore une fois, c'est pas une, c'est deux qu'on lui met à lui. Tu comprends? Là aussi, parce que si tu reprends le classement, je ne l'ai même pas fait, mais tiens, je vais le faire en temps réel. Ah ben oui, tu l'en mets qu'une et il termine à peu près quatrième, ça doit être ça. Ou cinquième. Bon, bah, c'est déjà moins pire. C'est pas le podium, mais c'est... Là, non, à lui, on lui met les deux, lui.
Ouais, c'est clair. Tiens, les gars, je vais vous demander d'être un peu plus bref là pour la suite du podcast. Il nous reste 3-4 petits points à voir. Je voulais quand même qu'on parle de McLaren rapidement, Seb, qui a pas existé sur le week-end, problème de fiabilité pour le coup. Lando Norris, lui, il a pas été chanceux. Il s'est passé plein de trucs sur sa voiture et pareil. Piastri en termes de performance. Alors Piastri, il se classe quatrième à la fin, mais on l'a pas vu du week-end. Lui, c'est le grand gagnant de toutes les pénalités. Oscar Piastri. C'est même qu'à un moment, il allait monter sur le podium alors qu'il allait terminer très, très, très loin.
Moi aussi. Et ça aurait été terrible pour Russell si Piastri avait fini sur le podium. À chaque course que Piastri a démarré, il a fini devant Russell. Évidemment, et on met de côté quand McLaren n'a pas pris le départ. C'est dans ce sens-là où cette stat, elle aurait été sympa. Mais McLaren, décevant dans le sens où la fiabilité, encore une fois, Norris, la liste des problèmes qu'il a depuis le début de la saison, c'est incroyable. T'es champion du monde, tu dois pouvoir mettre une voiture un petit peu plus fiable quand même pour Norris et pour les deux pilotes. Donc c'est vrai que c'est la déception de ce week-end. On attend plus d'eux, ils sont pas très loin, mais ce week-end ça n'a pas été bon. Encore une fois, problème technique, tu peux rien faire. T'as vu, j'étais bref.
Je rebondis mon Nico rapidement. Vas-y. Si tu veux bien. Ouais. Alors effectivement, pour le millième Grand Prix de McLaren, il faut quand même le dire, hein, ça n'a pas été une belle manière de le célébrer, mais bon, ça c'est la course là aussi. Le problème, c'est qu'à chaque fois, Norris affecté deux fois par des Gremlins électrique, hein, on est bien d'accord, puisqu'il doit s'arrêter à la sortie du tunnel, vous vous en souvenez, en P3, si mon souvenir est exact. Il s'arrête dans l'échappatoire, il ne peut même pas aller jusqu'au fond de l'échappatoire, parce que là aussi, ces machins-là, quand ça tombe en panne, ça s'arrête tout de suite, il n'y a plus rien. Donc, il s'arrête en plein milieu. Encore une fois, ça va poser un problème grave un jour. Bon, donc déjà, il est dépité, il ne peut pas travailler comme il faut, etc. Ensuite, les qualifs, bah, moyennasse, hein, dirait Vincent, évidemment. On termine 7 et 8, bon, mais surtout loin, à plus d'une demi-seconde. Et puis en course, bah, là aussi, le pauvre Norris, crac, il paye l'addition. Et comme vous le dites, Oscar, qu'on n'a pas vu du week-end, on l'a presque vu sur le podium. Bah, c'est assez révélateur. Et puis je dirais, il y a un petit coup de canif avec Mercedes, vous l'avez lu comme moi, quand on commence à dire du côté de Andrea Stella, ah oui, mais on est des clients, nous, Mercedes. Donc, sous-entendu, on n'a pas forcément tous les développements que l'usine Mercedes a, elle.
Ça y est, ça, les langues commencent à se délier. On en parlait tout à l'heure, c'est la première fois depuis 8 ans que 3 Français sont dans les points. Esteban Ocon a marqué 2 points. Ça a été un week-end compliqué, Louis, pour Ocon. Mais il a profité de l'opportunité, de tous ses abandons, d'un Oli Berman qu'on a vu à la faute. C'est rare de le dire, mais ce week-end, qui n'a pas fait que des bonnes choses pour marquer des points, Ocon.
Bah oui, surtout, surtout de là où il part, de sa qualif, jamais de la vie tu peux t'imaginer qu'il va avoir des points. Course très solide.
Bon, il part 17e.
Ouais, voilà, il part 17e, il termine 9, il prend 2 points, mais bon, c'est très bien, mais c'est 2 points, quoi. Tu vois, genre, c'est pas non plus. C'est sûr, quand tu pars 17e, t'es content, mais.
Mentalement, c'est important.
Oui, je pense que limite, c'est plus important de terminer devant son coéquipier, même si, bon, là, c'est un peu différent que d'être en soi 9e.
Parce que ça s'est chauffé.
Il a besoin, surtout, de. Son premier adversaire, là, ça n'a jamais été autant que son coéquipier, parce que il est quand même, il faut le dire, il est passé deux aujourd'hui chez As. Hein,
ouais. Ah oui, clairement.
Juste un mot aussi, mon Nico. Promis, c'est un mot.
Bah, bien sûr.
pour expliquer la perte d'Ocon, parti 17 et arrivé 9, les 8 pilotes qu'il a devancés ou ont été éliminés par des problèmes techniques ou ont été frappés par des pénalités. Ce n'est pas enlever ses mérites, mais vous avez compris.
C'est peut-être lui qui est venu bousculer le radar dans la nuit.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a arrivé avec son tournevis à 4h du matin.
Il a clac, je dévisse un peu, bim.
Nico, t'étais sur la place, t'as pas vu ça?
Il avait fait un stage à la gendarmerie du coin, peut-être.
Mais à mon avis, Esteban rend la boîte à outils, elle doit être planquée quelque part, c'est sûr. Le premier point d'Alonso, Aston Martin a marqué un point. Je sais même pas quoi en dire, mais franchement, c'est improbable. En termes de performance, ils sont tellement loin, mais à des années-lumière de ce qu'il faut faire. Jean-Luc et Alonso, il arrive à choper la 10e place. Pour dire que c'était n'importe quoi cette course, quand même. Hein.
Exactement, mon Nico. Mais bon, on va pas là aussi pleurer notre bonheur. Qu'est-ce que tu veux ? On le fait pour Hadjar qui monte sur un podium à cause des pénalités cette course erratique. Et on dit bravo Fernand, double. Le champion du monde, quand même, un garçon toujours aussi motivé à 44 ans. Bon, là, il se pose quand même lui aussi un petit peu des questions sur la suite. Il préfère ne pas répondre quand on lui demande s'il sera encore là l'an prochain. Écoute, oui, c'est un point venu de nulle part. C'est parce que miraculeusement, et je dis pas de bêtises, n'a pas été frappé par une pénalité nulle part, pour rien. C'est bizarre. Faut dire que peut-être qu'il a plus conduit sa voiture que piloté. Non, j'exagère, mais donc il a pas commis d'erreur. Et puis, elle est déjà tellement lente que quand il entre dans la ligne des stands, il est même pas à la vitesse limite, donc c'est bon.
Ouais. Et enfin, on se termine avec la belle perf des Racing Bulls, les amis, puisque Lawson 5e, Lindblad 6e, ils ont pris 18 points. Ouais, c'est fort, Seb. C'est des gros points de marqué pour Racing Bulls. Hein. Ça leur permet de prendre la 6e place. Hein.
T'as Mercedes qui marque 25 points et juste derrière, l'écurie qui marque le plus de points, c'est Ferrari et Racing Bulls à égalité. C'est fort, c'est bien et c'est intéressant. Et depuis plusieurs saisons, Racing Bulls, ils sont là, ils développent des pilotes, ils répondent présents. J'aime bien cette équipe, elle a l'air feel good. Les pilotes, tu les vois plonger ensuite dans le port de Monaco, ça fait plaisir.
Ça a du talent. A du talent.
Et même Lawson, il fait un bon début de saison, franchement. Lui qui était en difficulté chez Red Bull, là, et c'est le meilleur des autres, il me semble, si je ne dis pas de bêtises au classement. Et c'est intéressant, il montre les deux.
Tu parles de Lawson,
De Lawson qui est le meilleur des autres.
Neuvième, 26 points.
Exactement. Donc tu vois, c'est intéressant et j'aime bien la vibe de cette écurie. Donc à suivre.
Bon, les amis, merci beaucoup. On a fait très long sur ce débrief du Grand Prix de Monaco, mais c'était indispensable.
Il y avait de la matière. Il y avait de la matière.
Ouais. Et je suis pas sûr qu'on ait tout raconté. Mais on développera d'autres points dès jeudi. Warm-up de Barcelone dès jeudi. Ça, on va peut-être se pencher un petit peu sur les côtes de George Russell là pour ce warm-up parce qu'on en a pas trop parlé. Va falloir quand même qu'on essaie de décrypter cette saison. Qui ressemble à un calvaire pour George Russell qui doit absolument relever la tête. Merci beaucoup. Du coup, je vous l'ai dit, c'est Barcelone ce week-end avec un warm-up jeudi et le débrief de la course lundi prochain. Vous restez connectés. On vous dit à très vite. Bye bye.
Ciao.
Le paddock RMC.